Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons reçu Christelle Montreuil, entrepreneur d'ici, de Nicolette, de chez IDEO. IDEO, c'est une entreprise qui se rapporte à l'inclusion et je vous laisserai cette dernière vous expliquer sa mission de vie, ses objectifs et plus encore en tout ce qui a trait à l'inclusion. Ensuite, j'aimerais en fait remercier mes deux partenaires, dont Via 95 FM et la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska, que j'apparais davantage en mi-podcast. Finalement, j'aimerais remercier et dire un petit coucou à Donald Martel, député de Bécancour-Nicolet, et le remercier en fait de m'avoir encouragé dans ce projet. Bonne émission à vous!
L'invitation.
Ben, il n'y a rien là. En fait, merci à toi de t'être déplacée et d'être avec nous. C'est vraiment un honneur de t'avoir.
Ben là.
Puis dans le fond, moi, j'ai envie de savoir, pour commencer, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter notre invitation ici à Handicaché Podcast?
Ben moi, tout ce qui partage sur l'inclusion, c'est sûr que je veux être là parce que ça fait partie de ma mission de vie
oui,
de créer cette société-là plus inclusive. Puis tous les acteurs qui veulent participer à cette mission-là, clairement, c'est sûr, je vais les encourager parce que oui. Ça en fait partie.
Puis en fait, juste pour mettre les gens en contexte qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, t'es qui toi, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, les rôles, les chapeaux que tu portes, puis qu'est-ce qui justement t'emmène cet amour-là de l'inclusion, puis de nous parler en fait de IDEO.
Oui, ben je vais commencer par me nommer. Je m'appelle Christelle Montreuil, je me définis en elle. Puis pour ceux qui ne peuvent pas me voir aujourd'hui, j'ai les cheveux châtains, détachés, mi-épaule.
Oui.
J'ai la peau pâle, les yeux bruns. J'ai toujours un rouge à lèvres rouge que là, j'ai bu de l'eau. Fait que ça se peut qu'il soit un peu à moitié parti.
Okay, je te confirme.
J'ai un gilet noir, un veston noir. Ce que je viens de faire peut paraître bizarre pour ceux qui nous voient, mais c'est dans le fond une manière de se décrire de manière inclusive. Donc, ça permet à ceux qui ne peuvent pas me voir, ben de se faire une représentation de moi.
C'est vrai, mon Dieu, j'avais même pas pensé à ça dans toutes les autres émissions que j'ai tournées jusqu'à maintenant.
Ah, tu vois, c'est peut-être une nouvelle pratique que tu vas pouvoir comme intégrer.
Oui.
Puis tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui sont pas vraiment à l'aise avec ça. Puis c'est correct aussi, hein, tu sais, on y va avec le niveau de
confort
qu'on a aussi. Puis tu sais, moi, c'est parce que ça fait partie de mon day-to-day. Là.
Ben oui, puis moi, j'aime tellement ça d'apprendre justement des techniques comme ça, puis des prises de conscience comme ça.
Ouais.
Je trouve ça beau.
Oui. Donc, je suis la fondatrice de IDEO. IDEO est une firme de services conseils en design inclusif et accessibilité universelle. Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on vient aider les entreprises à mieux concevoir soit leurs produits, leurs services ou leurs environnements pour qu'ils soient accessibles et utilisables au plus grand nombre de personnes possible. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la personne puisse, peu importe ses capacités, puisse entrer, utiliser le service, mais tu sais, vraiment vivre l'expérience au complet.
Oui.
Puis pourquoi que c'est arrivé ça dans ma vie?
Oui.
Ben dans le fond, quand j'avais 18 ans, mon meilleur ami de l'époque a eu un grave accident d'auto.
Mmh.
Et du jour au lendemain, il est devenu un traumatisme crânien cérébral. Et du jour au lendemain, en plus de vivre avec sa nouvelle situation de vie, ben il se rendait compte que tout autour de lui ne fonctionnait plus en fonction de ses nouveaux besoins.
Fallait qu'il s'adapte à tous les jours.
Toutes.
Peu importe où est-ce qu'il allait.
Oui. Tu sais, même sa propre maison, il ne pouvait même pas retourner chez lui parce qu'à ce moment-là, il utilisait une aide à la mobilité, un fauteuil roulant motorisé.
Okay.
Puis devant chez lui, il y avait 3-4 marches. Fait que même ça, c'était impossible. Fait que d'emblée, il était là comme, OK, je peux même pas retourner dans mon propre chez moi, le lieu que je connais, que j'ai toujours vécu, dans lequel que j'ai grandi.
Mmh.
Ça fonctionne pas. Puis tu sais, admettons qu'on aurait mis une rampe, mais ça aurait pas plus fonctionné parce que c'était comme une maison à étage.
Ouf.
Sa chambre était en haut. Il y avait pas de salle de bain au rez-de-chaussée. Tu sais, c'était pas conçu.
La cuisine pas adaptée,
oui,
salle de bain pas adaptée, les portes.
Ça fonctionnait, ouais. Mais tu sais, ça allait plus loin que ça, là. Oui, ils sont chez soi, mais tu sais, d'aller voir ses amis, parce que tu sais, on avait 18 ans, on est encore dans l'âge
ben
de voir nos amis, comme d'aller faire la fête et
tu développes
tout.
Ton identité,
oui,
t'explores.
Puis là, c'est ça, genre, il se rendait compte que tout était un obstacle.
Mm.
Dans ma tête de designer à ce moment-là, j'ai fait comme, ça marche pas. ça marche pas que nos besoins qui vont changer, évoluer tout au long de notre vie.
Oui, dans le fond, oui.
Que l'environnement puisse pas s'ajuster en fonction de ça. Hein? Puis on s'entend que dans la société, ben on est tous différents. Hein? On va partir de la prémisse qu'on on est tous différents, il n'y a personne de pareil.
Oui.
Donc ça, ça veut dire que présentement dans la société, il y en a qui ont des diversités de capacités, donc qui utilisent déjà ces environnements-là, fait, mais qui sont conçus avec des obstacles.
Oui, exact.
Fait que là, j'ai fait comme, hé, moi, là, ça ne fonctionne pas dans ma tête de designer. Puis là, on parle de v'là 20 ans. Là.
À ce moment-là, ta vie, tu avais commencé déjà le design intérieur, de ce que je comprends.
Dans le fond, moi, ce que j'ai fait une technique en design d'objets.
OK.
Puis quand c'est arrivé, c'était à la fin de ma technique, puis au début de mon bac en design de l'environnement.
Wow.
Puis en design de l'environnement, on touchait à l'architecture, aux produits, puis à l'urbanisme. Fait qu'on touchait un peu à tout. Puis là, je suis arrivée à mes professeurs puis de baccalauréat. Puis là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire mon projet de fin d'études sur la situation de mon ami. Oh. Il était là comme, mais pourquoi tu t'intéresses aux personnes handicapées?
Oh mon Dieu!
Mais là, on parle de là, 20 ans. Puis tu sais, c'était
encore
ça,
arrivé,
là.
Mais
oui.
Peut-être moins fréquemment.
Puis là, comme, ben, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Puis là, je me rappelle, mes profs, à ce moment-là, ils m'ont dit, ben, il existe le guide de conception sans obstacle que tu peux regarder, mais ils ne pouvaient pas tant que ça m'aider. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches partout dans le monde. J'ai fait comme, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui existe quelque part, fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller fouiller, je vais aller me renseigner. Puis c'est là que j'ai comme connu l'accessibilité universelle, le design inclusif, les conceptions sans obstacle, puis que je l'ai amené ici. Il y avait déjà une entreprise qui faisait sensiblement ça au Québec.
Okay.
Probablement que tu la connais peut-être, là, ça s'appelle Société Logique. Eux autres, ça fait comme, je pense que ça fait 30 ans là, qu'ils font ça. C'était des pionniers dans le domaine. Mais à ce moment-là, je n'étais pas rendue là, à l'étape de comme travailler avec eux autres.
Okay.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment amené ces concepts-là. Puis, j'ai fait un bloc de logement entièrement inclusif. Fait que mon projet de fin de bac, ça a été ça. Mon projet, là, il a été zéro populaire.
Hein?
Zéro
mais
populaire!
Non.
Je le dis, mais tu sais, on s'est vu là 20 ans, là, j'étais pas hot,
tu m'entends, puis je suis comme, on dirait que j'écoute une émission en ce moment, dans notre émission ensemble, tu sais. Mais,
Il a été zéro populaire, sauf une dame qui est en fauteuil roulant, qui est venue voir mon projet, puis elle a juste dit merci. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, c'est sûr, c'est ça que je fais. Fait que c'est comme devenu mon cheval de bataille. Tu sais, avec l'accident de mon ami, est arrivé comme ma mission de vie.
Oui, c'est ça. C'était une mission de cœur puis une mission de vie en même temps que ce sont comme jumelés ensemble pour faire ta mission de carrière, dans le fond.
Oui,
là.
C'était vraiment, tu sais, pour vrai, tout était rendu aligné avec ça. Là.
Ouais.
Tout ce que j'allais faire, tout ce que j'allais faire comme emploi
allait
devenir en ligne avec ça.
Wow!
Puis c'est drôle parce qu'après ça, j'ai fait comme ma maîtrise en sciences d'architecture parce que là, il n'y avait pas grand monde qui pouvait m'engager là, dans mon domaine spécifique. Fait que j'ai continué les études. Okay. Fait que j'ai fait une maîtrise scientifique directement là-dessus, sur le sujet de mon ami. Dans le fond, la notion du chez-soi. Comment ça peut évoluer justement avec des événements qui peuvent changer ta vie. Puis après ça, j'ai fait un doctorat sur mesure en design inclusif et accessibilité universelle. Donc, ça n'existait pas. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont jumelé plein de cours dans plein de domaines. Fait que j'avais des cours en architecture, j'avais des cours en psychologie, en médecine, pour vraiment comme créer mon doctorat sur mesure. Ouais, là-dessus.
Fait que t'as même réinventé à quelque part une espèce de sphère d'école, je dirais, de matière qui n'existait pas nécessairement.
Bien, clairement, j'ai modulé comme mon doctorat pour que ça me convienne à moi parce que...
À ta couleur.
Oui. Puis tu sais, même, je suis allée faire des stages aux États-Unis pour me former parce qu'eux autres, ils étaient plus avancés là-dedans. Fait que moi, tu sais, moi, je voulais avoir les meilleures pratiques.
Wow.
J'ai tout fait pour le faire.
C'est vraiment
drôle
passionnant.
Après mon doc... J'ai commencé à aller vers des emplois, mais là, j'avais comme tellement un gros CV qu'il n'y a pas grand monde qui voulait m'engager. Je faisais comme peur avec mon CV. Mais moi, ce que je voulais, c'est que je voulais juste avoir ma première chance. Donc, j'ai travaillé pour un fournisseur d'air de jeu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, moi, j'aimerais ça mettre ma couleur. Fait que ma couleur, c'était l'inclusion. Fait que je voulais faire des aires de jeu inclusives.
Wow!
Fait qu'à chaque emploi que j'ai fait, ben là, je venais teinter ma couleur. Fait que quand je travaillais en architecture, je faisais de l'architecture inclusive. Quand je travaillais en employabilité, ben j'ai fait de l'employabilité inclusive. Puis là, des fois, le monde, ils regardent mon CV, ils font comme, voyons, t'es donc bien allé à gauche, à droite, à gauche, à droite. Puis je suis comme, c'est vrai que sur papier, ça a l'air d'être à gauche, à droite. Mais moi, j'avais toujours la même lignée qui était de créer une société plus inclusive. Puis le moyen pour m'y rendre était différent, mais j'avais toujours la même lignée.
Oui.
Ce qui a fait que, dans le fond, IDEO a pu vraiment prendre son envol parce que, tu sais, dans le fond, j'étais venue me spécialiser dans tellement de domaines que là, genre, j'étais vraiment...
Ça fait ton éventail de pas de talent, mais de connaissances, d'expérience, oui, puis tout ce qu'il te fallait, dans le fond, pour partir IDEO.
Exactement. Puis c'est drôle, là, parce que IDEO, elle a eu 3 ans. Officiellement, elle a eu 3 ans. Mais officieusement, là, IDEO, je l'ai enregistré sur les bancs d'école v'là 20 ans.
Hé, hey, mon Dieu!
Je me rappelle, on est autour de la table là, avec mes parents, puis là, mon père fait comme, ah ouais, d'après moi, un jour, là, tu vas avoir une firme de service conseil là-dedans. Wow. J'étais comme, ouais, ça me tente, ça me parle. Mais tu sais, v'là 20 ans, j'étais comme trop tôt. Okay. Pour le processus. Mais on l'avait enregistré pareil, là,
ouais,
pour faire comme, hey, on va avoir le nom au moins d'enregistrer.
Ah, c'est beau, tout
c'est
ça.
C'est beau, hein?
Cette fierté-là que ça peut t'emmener de là, 20 ans, t'avais des rêves, t'avais des ambitions, puis t'es enfin rendu là, t'es concret, tu le vis, puis waouh.
Qu'est-ce qui est encore plus beau, c'est que c'était mon rêve, admettons, de créer une société plus inclusive, puis aujourd'hui, je la crée à tous les jours, cette société-là qui est plus inclusive. J'en ai la chair de poule de faire comme, OK, là, on le fait vraiment. Ouais. C'est plus un rêve, là, c'est vraiment du concret.
Ouais.
C'est un projet à la fois, une personne à la fois.
Ouais.
On le sait que c'est pas une affaire qu'on peut faire du jour au lendemain. Ben non, c'est un processus.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment des petites questions précises. Là, puis tu me le dis, si t'as pas l'information, c'est pas grave. Il y en a qui l'écriront en commentaire, on viendra là-dessus plus tard. Mais dans le fond, pour les entreprises, moi, j'ai eu un questionnement au niveau, dernièrement, même des stationnements pour les personnes qui vivent avec un handicap. Je me demande, est-ce que tous les établissements qui sont publics, même les OBNL, organismes à but non lucratif, doivent avoir un stationnement pour personnes handicapées puis être accessibles à tous?
Bien, pour vrai, dans le meilleur des mondes, ça serait ça. Oui, mettons. Parce que, tu sais, un bâtiment public... Pour qu'il soit public, il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Hein?
Oui.
Parce que sinon, la notion de public là, fonctionne comme pu. Hein?
Oui.
Mais c'est juste que présentement, la réglementation est comme au minimal.
Mm.
Fait que, tu sais, si on regarde là, mettons, le guide sur l'accessibilité du Québec,
Bien,
en bas, je pense que c'est 25 stationnements. Il n'y a pas d'obligation d'en avoir un stationnement.
Oh.
Fait que si tu as 25 stationnements et moins, tu n'as pas cette obligation-là. Mais dans les bonnes pratiques, c'est marqué au moins un, t'sais, minimalement au moins un, ou fais-les tout plus grands, tes stationnements.
Pour que ce soit accessible à tous.
Exactement. Puis que là, ils vont être accessibles à tout le monde, puis que la personne va pouvoir choisir le stationnement qui lui convient le mieux pour que ça va faciliter. Mais tu sais, un stationnement, t'sais, les gens, ils pensent que c'est juste de mettre comme la case en bleu puis mettre la pancarte, mais... C'est pas juste ça, là. Il y a tous les trottoirs, le cheminement autour, la sécurité qu'il faut tenir en compte parce que c'est ça, c'est pas juste une case. Là,
oui, puis dans le fond, je vois aussi des personnes, ça arrive parfois, qui se stationnent à côté d'un stationnement pour les personnes qui ont un handicap, qui vivent avec un handicap, excuse-moi, puis qui prennent carrément la place de la ligne de l'autre. Mais je me dis, il y en a qui ont des vannes adaptées, puis qu'il y a comme une espèce de tapis qui se déroule, puis qui doivent prendre cette place-là, cet endroit-là qui leur sont désignés pour sortir avec leur fauteuil roulant. Fait que, tu sais, je trouve ça important de mettre ça en lumière aujourd'hui, de faire attention le plus possible aux espaces.
Tellement. Puis je pense que, tu sais, il y a beaucoup de sensibilisation qui reste encore à faire.
Ouais.
Tu sais, cette personne-là, si elle s'est stationnée là, probablement qu'elle n'en a aucune idée de comment ça fonctionne, dans le fond, un véhicule qui est adapté, puis comment que la personne elle va sortir.
Ouais.
Mais peut-être que si on ferait comme, « Hey, je vais te montrer comment que moi j'embarque dans mon auto, comment que j'en sors, puis peut-être que tu vas faire comme, ah, petite prise de conscience.
Oui, c'est ça.
Je vais me stationner peut-être un peu plus loin la prochaine fois. » Parce qu'il y en a qui sortent du côté conducteur. Il y en a qui sortent du côté passager. Mais il y en a qui sortent par en arrière aussi, par le coffre. Fait que c'est toute cette notion-là qu'il faut comprendre, que c'est pas tout le monde qui sort de la même manière.
Mmh.
Tu sais, moi, j'aime bien faire un autre parallèle. Tu sais, oui, il y a les stationnements qui sont réservés.
Ouais.
Mais toi aussi, là, t'es une maman avec un jeune enfant.
Ouais.
Un jeune enfant, là, comment ça l'ouvre une porte d'auto?
Le mien, il fait pas encore.
Mais moi, en tout cas, les miennes, ils font sans vraiment la conscience de l'autre auto à côté. Tu comprends? Fait qu'ils ouvrent la porte d'auto.
OK, moi, je comprends. Ils l'ouvrent au complet, là.
Ils l'ouvrent au complet. Puis là, des fois, ça fait comme « parc ».
Dans l'autre auto à côté de toi.
Mais clairement, là, moi, en tant que maman, je me sentirais donc bien bien que le stationnement soit un peu plus grand, OK? Puis que j'aille pas cette peur-là à chaque fois
qu'il ouvre la porte.
De faire comme « Attention, il y a un autre auto! » Tu sais, c'est juste comme du gros bon sens, puis que, tu sais, mettons ces exemples-là, peut-être qu'il y en a plein qui vont se reconnaître, ils vont faire comme, ah ouais. Mm. Ouais. Ou ça peut être juste, même si t'as pas d'enfant, là, des fois, là, ils ventent en crime, OK? Ouais. Puis que là tu, tu le sais pas trop, tu ouvres ta porte, puis là, ta porte...
Elle rouvre.
C'est à cause du courant d'air, puis là, elle rentre dans l'auto.
Ouais.
Mais clairement, tu sais, c'est des choses. Comme, là, on va pas le nommer, mais on va le nommer, mais Costco, là, les stationnements sont tous plus grands. Parce qu'ils savent que là, on va arriver avec un gros
chariot. Un gros panier.
Oui, exactement.
Ouais.
Mais tu sais, ils ont comme compris comment que ça fonctionne, là, leur processus. Fait que là, ils ont fait comme des stationnements plus grands parce que pour aider.
Oui, puis je me dis, tu sais, des fois, tu peux avoir eu un accident que temporairement ou une opération, tu as besoin d'un fauteuil roulant, tu n'as pas de pancarte handicapée.
Oui, exact.
Pour personne handicapée qui vivent avec un handicap. Encore là, j'essaie de moi-même modifier mes mots. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on ne sait jamais les circonstances dans la vie qui peuvent nous amener à avoir besoin de cet espace-là.
Oui, puis ça, c'est quelque chose qu'on dit vraiment souvent là, chez IDEO. Tu sais, on pose souvent la question, selon vous, quel pourcentage de la population vivra un jour ou l'autre une situation de handicap?
Ouais.
Puis on va dire 18, 33, 74, 100 %. La majorité des gens vont penser que la réponse est 18 puis 33. Mais la réponse, là, c'est 100 %. C'est 100 % de la population qui va vivre un jour ou l'autre une situation d'handicap. Que ce soit de manière permanente, temporaire, comme tu l'as dit, hein, whoop, on a un accident, on est en béquille pour une couple de semaines. Vous allez en rencontrer quelques obstacles
mais
avec vos béquilles. Ça peut être aussi situationnel. Hein? Situationnel, ça peut être un parent avec une poussette, mais ça peut être un livreur avec son diable. Ça peut être aussi, je vais dans un autre pays, je ne parle pas la langue.
C'est vrai.
Je suis en situation de handicap parce que là, comment que je fais pour communiquer avec les autres, comprendre la signalétique?
Il y a une barrière là.
Il y a une barrière là. Puis le dernier, c'est pour les chanceux d'entre nous, on va se rendre au vieillissement, mais même si le vieillissement, c'est beau, ça peut engendrer aussi des pertes au niveau cognitif, physique, sensoriel.
Fait que
c'est tout le monde qui va le vivre un jour ou l'autre. Fait que c'est pour ça que souvent le monde va faire comme « Ouais, mais tu conçois juste pour un faible pourcentage de la population. » Ben non, je conçois ça pour 100 % de la population parce que c'est 100 % de la population qui va le vivre un jour ou l'autre. Fait que moi, mon objectif, c'est d'enlever le plus d'obstacles possible pour vous faciliter la vie en cas d'obstacle.
Exact. C'est tellement vrai. Puis on dirait qu'il y a une majorité de la population qui ne veulent pas penser, je pense surtout au vieillissement, qui veulent vivre ici, là et maintenant, mais que c'est inévitable. T'sais, on se rend tout là un jour
dans le meilleur des mondes.
Dans le meilleur des mondes, la majorité des cas. Je pense que si on y pense une fois de comment bien structurer l'entreprise ou structurer la maison, je pense que tu n'as pas à le refaire plus tard non plus.
Puis pour vrai, là, les gens vont souvent dire, mettons, ouais, mais là, ça va coûter cher l'inclusion puis l'accessibilité. Bien, si on le pense d'emblée, là, dès le départ, là, c'est de 0 à 1 % plus cher. De 0 à 1 % plus cher, là.
Bon.
C'est vraiment pas une grosse affaire. Par exemple, si on le pense après, là, en adaptation, watch out. Là, c'est là que ça va coûter cher. Fait qu'on est bien mieux de le penser en amont.
Ben
c'est là qu'on va éviter
les surprises. Parce que souvent, il faut que tu te déconstruises. Là, t'as des surprises. Puis là, oups, il faut que tu réadaptes, il faut que tu refasses. Tu sais, c'est faut que tu repenses les manières que des fois, si ça aurait été pensé la première fois, ça aurait été beaucoup moins cher.
Oui. Puis pour vrai, même avec mes clients, souvent, les maris font comme, ah, OK, on a un bâtiment, là, on veut faire un audit en accessibilité. Là. Je dis, OK, es-tu construit? Oui. Ah, je suis là comme, OK, mais les prochains projets, rappelle-moi quand t'es en, quand tu vas commencer tes plans, là, on va les faire comme il faut, puis après ça, tu vas voir, là, tout va être bien pensé, puis ça va être plus facile. Puis un coup qu'on va l'avoir fait une fois avec toi, tu vas être déjà sensibilisé, puis tu vas le savoir pour tes prochains projets.
Puis qu'est-ce que tu conseillerais aux entreprises qui, présentement, sont pas très inclusives dans leur manière d'avoir bâti soit leur établissement, leur manière de faire sont pas nécessairement adéquates. Exemple, les entreprises qui n'ont pas de porte automatique pour les personnes en fauteuil roulant. Ou encore une fois, pour les personnes en fait qui n'ont pas de fauteuil roulant, mais qui ne sont pas capables de rester debout dans des longues files, exemple l'épicerie, la caisse, peu importe. J'ai été proche aidante, moi, pour une personne dans ma famille, puis elle m'envoyait faire ses commissions parce que dans tous les endroits où est-ce qu'elle allait, la personne ne pouvait pas rester debout. Il devenait plein de sueur, il n'était pas capable, il était sur le point toujours de tomber, on dirait, là. Mais tu sais, il rencontrait ça partout dans les endroits publics. C'est quoi que tu conseilles aux gens?
Mais, tu sais, pour vrai, je pense que le premier pas en inclusion, là, c'est soi-même.
Mm.
C'est d'avoir cette ouverture-là vers l'autre. Fait que, tu sais, je comprends que présentement, ça soit pas tout accessible, ça soit pas tout inclusif.
Ouais.
Mais déjà, faire comme, de le reconnaître, OK?
Ouais.
De faire comme, OK, on est peut-être pas top,
ouais,
là, présentement, au niveau de notre accessibilité. Mais par exemple, ce qu'on peut faire, c'est on va agir sur notre savoir-être.
Ouais.
Fait que même si notre environnement l'est pas,
ouais,
nous, on va l'être. Donc, on va venir comme un peu pallier à ce manque d'accessibilité-là. Fait que, est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider?
Mmh.
Est-ce que je peux faire un service pour toi? Tu sais, tout ça, là, je pense que c'est un beau premier pas.
C'est vrai.
Ça, ça coûte rien.
Rien.
Ça coûte rien.
C'est un don de soi d'aider ceux qui
Exactement.
Nous entourent puis qui ont des difficultés, que ce soit temporaire ou permanent, tu sais.
Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai un de mes bons amis, là, Denis Laliberté, qui m'avait dit à un moment donné, t'as beau avoir un bâtiment qui est super inclusif, si les gens à l'intérieur ne le sont pas, ça vient comme enlever de ça.
Ouais.
Puis au contraire, si on a un bâtiment qui ne l'est pas, mais que les gens à l'intérieur le sont vraiment, puis qu'ils vont tout faire pour que tu vives une belle participation, bien là, ça vient comme pallier à ce manque d'accessibilité-là. Fait que je pense que ça, c'est pour toutes les entreprises, c'est votre beau premier pas d'avoir cette sensibilité-là à l'autre, de faire comme... OK, on ne l'est pas, là, mais on va trouver d'autres moyens.
D'autres solutions.
Oui,
c'est
pour,
ça.
Pour le rendre, tu sais, puis que ça n'aura pas de coût. Je pense à, mettons, un restaurant, s'il n'est pas accessible,
ouais,
mais est-ce que tu peux avoir un service que tu peux aller y porter directement à son auto ou est-ce que, tu sais, là, je ne sais pas n'importe
beau,
quoi, là, mais tu sais, d'avoir
c'est
cette
vrai.
Ouverture-là qui fait comme, OK, on le reconnaît là, qu'on ne l'est pas, puis que dans le futur, si on fait des modifications, on va le rendre, OK?
Ouais.
Mais là, pour le moment, on l'a pas, bien, au moins, tu sais, je vais offrir des options qui sont comme autres, qui vont
oui.
avoir un bel impact, puis que la personne va faire comme, hey, j'ai été considérée, tu sais, mettons, j'ai pu vivre l'expérience, j'ai pu goûter à cette pizza-là, ou j'ai
c'est
pu
vrai.
Aller prendre, goûter à la bière de cette microbrasserie-là,
tu sais. C'est vrai, c'est vrai.
Ça, je pense, c'est un beau premier pas. Puis, après ça, mais tu sais, moi, j'accompagnerais l'entreprise au niveau où est-ce qu'elle est rendue.
Okay.
Tu sais, c'est tellement comme relatif d'une entreprise à l'autre que je ne peux pas comme donner une checklist. Là,
non, non.
D'être ça.
Tu sais, c'est du cas par cas, dans
oui,
le fond, que
exactement.
Tu dois faire selon, tu sais, il y a sûrement une question de budget, il y a une question
oui.
d'organisation. Tu sais, c'est plus grand que juste de dire un détail à travailler. Là.
Oui, exact. Puis, tu sais, moi, ce que je veux pas, c'est je veux pas y faire peur.
Non, c'est ça.
Moi, je veux qu'ils en fassent des pas.
Oui.
On va commencer par un premier petit pas.
Oui.
Puis on va voir comment ça va. Après ça,
ouais.
on va en faire d'autres petits pas. Puis là,
ouais.
c'est ça qui va faire qu'il va devenir de
longue.
Plus en plus inclusif. Et puis, en même temps, c'est correct d'en faire des erreurs puis d'apprendre.
Ben oui.
Tu sais, mettons, je pense à un festival qui va mettre en place des mesures d'accessibilité.
Oui.
Ça se peut qu'ils aillent pas tout.
Oui.
Mais ça se peut qu'il y en ait mis, puis qu'il y ait mis ça d'avant, puis il y avait
oui.
comme, hey, on commence dans l'accessibilité
ouais.
et l'inclusion, puis voici ce qu'on a mis. Puis là, oups, ils ont un retour d'usager qui fait comme, hey, ça c'était bon. Hey, mais l'année prochaine, si vous êtes capable d'amener ça.
C'est toujours l'adaptation, peu importe l'événement, oui. peu importe ce que tu mets en place dans la vie, que ce soit un établissement, que ce soit, peu importe, il y a toujours quelque chose à améliorer. Puis l'important, c'est de savoir se remettre en question, puis d'y aller un petit peu à la fois. Là.
Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, être 100% inclusif, là, je pense pas que
non.
ça existe.
Non.
Je pense que c'est juste comme on s'ajuste, on s'adapte,
ouais.
on s'adapte.
Ouais.
C'est comme ça qu'on va
comme dans notre rôle de parent, comme dans notre rôle de, tu sais,
de toute notre vie, là.
C'est ça.
On est toujours en comme justement là.
C'est ça.
On s'ajuste, on s'adapte.
Oui.
On s'adapte. C'est correct.
Oui.
Ouais.
Oui. Puis on parle beaucoup d'établissements, mais est-ce que tu as là t'as parlé de parc tantôt un peu.
Ouais.
Est-ce que t'as d'autres univers, sphères que tu peux amener un peu de ta touche idéo dans des entreprises, des produits?
Ah ouais, on touche à tout là, chez idéo. Oui, on a beaucoup de projets en architecture, mais on a beaucoup de projets en parc et espace vert. Hein. Puis ça, les aires de jeu, là, c'est comme une petite dada qu'on aime. Là, parce que moi, là, tout ce qui est comme préscolaire, scolaire,
ouais.
là, j'adore ça parce que au préscolaire, ils n'en ont pas de biais, puis ils n'en ont pas de préjugés. Que l'ami, il manque un bras, que l'ami ait la trisomie 21 ou que l'ami ait la peau d'une autre couleur, là, ça reste l'ami.
Oui,
c'est l'ami.
Exact.
Fait que je trouve que dans les parcs puis espaces verts puis dans les aires de jeu, ben ça permet cette continuité-là
ouais.
qu'on ne la voit pas, la différence,
ouais.
puis qu'on est tous ensemble puis que c'est beau d'être ensemble.
Tout le monde
ensemble.
Se rassemble, tout le monde joue ensemble.
Oui, exactement.
Ouais.
Mais il faut bien les penser, ces aires de jeu-là, parce que il y en a présentement qui sont conçus que justement, il y a des obstacles. Fait que comment qu'on fait pour pallier à ces obstacles-là pour qu'on continue à avoir cette belle inclusion-là
oui.
dans le motif du jeu? Hein?
Oui.
Puis jouer, c'est un droit.
Ouais.
Puis moi, j'aime bien dire que ce droit-là se doit d'être inclusif.
Oui, exact.
C'est comme une base.
Exact.
Puis tu sais, déjà, les enfants, au niveau primaire puis secondaire, ils voient déjà qu'on commence à faire de la ségrégation. Tu sais, que là, oups, il y a des amis qui sont dans une autre classe ou qui sont dans une autre école plus spécialisée.
Ouais.
Mais tu sais, les parcs espaces verts permettent vraiment de ce rassemblement-là qui fait le vivre ensemble.
C'est vrai, en dehors des classes, dans le fond, là.
Oui, exact. Puis c'est dans le plaisir, dans le bonheur.
Oui.
On travaille aussi avec le transport. Fait que comment rendre les réseaux de transport plus accessibles, plus inclusifs. On travaille aussi avec les employeurs au niveau de l'employabilité. Fait que comment intégrer, maintenir, puis accueillir une personne justement qui est en situation d'handicap. Puis ça, on collabore avec le ROSEF.
Le ROSEF, ouais, je ne connais pas ça.
Le ROSEF, c'est le regroupement des organismes spécialisés en main-d'œuvre pour personnes handicapées. Dans le fond, ils ont 25 organismes membres là, à travers le Québec pour justement aider à l'employabilité.
Fait
que nous, on les accompagne aussi là-dedans.
Wow.
On touche aussi à l'événementiel, on touche aux produits aussi, fait comment concevoir des produits qui vont être plus inclusifs, mais on travaille aussi au niveau du service, comment que notre service peut être plus accueillant, plus inclusif, pour pouvoir justement être bien à accueillir toute cette belle diversité de personnes.
Wow, fait que vous n'avez pas juste une diversité dans votre mission de IDEO, vous avez une diversité dans vos services.
Oui.
Vraiment, c'est incroyable tout ce que vous faites. Puis j'ai envie de te demander, si tu le peux bien sûr,
ouais.
C'est quoi vos projets d'avenir, tes rêves futurs pour votre entreprise?
On en a vraiment beaucoup.
Ouais.
IDEO est vraiment connu au niveau provincial, mais encore peu connu dans la région. Fait qu'on a un objectif de mieux se faire connaître aussi dans notre région parce qu'on veut avoir un impact sur notre ici, là, notre lieu à nous, puis tu sais, le rendre vraiment à l'image qu'on veut qu'il soit plus inclusif parce que notre région, on s'en vient de plus en plus diversifiée, puis il faut la rendre plus inclusive.
Oui.
On a un objectif aussi, on est quand même beaucoup connu au niveau du Canada, mais on se fait beaucoup zioter par nos voisins de l'Europe.
Oui!
On a vraiment une belle visée là, de peut-être ouvrir une petite cellule IDEO, Europe.
C'est vraiment incroyable.
Ouais.
C'est incroyable.
Fait que ça, c'est dans un proche avenir là, qu'on aimerait vraiment ça, avoir une cellule IDEO en Europe, parce que justement, on se fait beaucoup zioter, puis dans ces domaines-là, on est comme 20 ans en avance sur l'Europe. Fait que c'est pour ça qu'ils nous aident beaucoup parce que là, ils font comme « Ah, OK, on peut se rendre jusque-là. » Puis, tu sais, nous, on ne veut pas leur faire faire un bond de 20 ans. Là. On veut les accompagner puis faire comme « Hey, vous pouvez vous rendre jusque-là. »
Un peu comme vous faites dans l'accompagnement avec chaque personne qui font appel à vous, tu sais, au niveau de l'inclusion. Là.
Oui, vraiment. Wow. C'est vraiment un pas à la fois. Là. C'est vraiment très important, ça, pour nous.
Oui.
Tu sais, même, on sensibilise beaucoup. Beaucoup, là, ça fait vraiment partie de notre mission parce que des fois, là, quand on parle, on dit design inclusif et accessibilité universelle, ça se peut que les gens nous regardent avec un point d'interrogation dans le visage pour faire « Ouais, OK, c'est vous faites. » Ça, c'est bon. Moi, j'aime ça quand ça fait ça parce que je suis là comme « Ah,
ben
je vais t'expliquer, je vais prendre le temps de t'expliquer. » Puis quand un coup, c'est expliqué, les gens font comme « OK, wow, c'est cool. »
Ouais.
Fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire. Puis même dans les cursus scolaires, c'est presque pas peu ou pas à enseigner tout ce qui est le design inclusif et l'accessibilité universelle.
Okay.
Fait que ça, pour nous, c'est un enjeu. Fait que nous, on offre nos services gratuitement à tous les établissements scolaires, peu importe le niveau, pour justement aller implanter cette petite graine-là de l'inclusion puis voir comment qu'elle va fleurir dans le futur.
Wow! Ouais, d'autres Christelle comme toi qui sont peut-être une future personne qui va travailler à IDEO, on sait jamais.
Ah oui, on aime vraiment ça, encourager la relève. Ouais, vraiment. Fait que c'est dans nos rêves.
Puis dans tes projets antérieurs, on s'est parlé un petit peu dans toi en caméra. Là.
Oui.
Dans le fond, tu as lancé aussi un podcast, là, si je ne me trompe pas.
Oui. L'année dernière, je crois qu'on a parti un podcast qui s'appelle L'inclusion, une personne à la fois, un pas à la fois. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on rencontrait différents acteurs dans le domaine de l'inclusion, puis on voulait savoir pour eux qu'est-ce que ça voulait dire, l'inclusion.
Ouais.
Puis c'était le fun parce qu'on a eu comme plein de belles définitions de l'inclusion qui étaient vraiment diversifiées, mais qui avaient comme tout un objectif commun. C'était vraiment beau d'avoir ces partages-là. C'est tellement important. Plus on va en parler, plus ça va comme devenir la norme.
Je trouve tellement que c'est riche. Je trouve tellement que c'est juste du positif d'échanger là-dessus. Juste tout ce que tu amènes en ce moment même. On pourrait vraiment continuer pendant des heures à parler sur plein de sujets tellement différents. Mais je trouve vraiment que ça amène... Chaque personne a sa couleur à livrer, puis c'est beau.
Vraiment. Puis tu sais, même dans notre, des fois, qui me disent « Ouais, mais c'est quoi les désavantages de l'inclusion? » Je suis comme
Y en a
présentement, là, même dans la littérature, ils font comme, il n'y en a pas de désavantages dans l'inclusion. Il y a juste des avantages à mettre en place de l'inclusion là, dans nos environnements.
C'est vrai. Moment d'interruption pour vous parler de la Fondation Santé Bécancourt Nicolet Yamaska. Saviez-vous que l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard d'Aston bénéficie d'une belle salle de spinning de 30 vélos? La Fondation a participé pour un montant de 10 000 $ à ce projet visant à maintenir et à développer les saines habitudes de vie de nos jeunes. Les élèves ont accès à la salle de spinning sur l'heure du dîner et elle est utilisée lors des cours d'éducation physique. La salle est aussi mise à la disposition du personnel après l'école. Si vous voulez encourager la Fondation, vous pouvez visiter leur site web et aller faire un don au www.fondationsantébny.ca. Est-ce que tu as un moment que je dirais un moment clé de IDEO, un moment qui va toujours te rester en tête, qui va toujours être dans ton cœur, un moment vraiment coup de cœur, je dirais, là, de ton entreprise que tu aimerais partager?
Bien, je te dirais que c'est de m'avoir fait le cadeau de le partir à 100 %. Puis c'est drôle, hein, parce que moi, la date d'anniversaire d'IDEO, c'est le 14 février.
Oh, wow!
Fait que c'est mon cadeau à moi, de m'être fait comme « let's go ». C'est ton train, embarque dedans.
On parlait de mission de cœur tantôt. Tu sais, je pense que ça va vraiment avec ça. C'est une mission de vie, une mission de cœur qui est partie à la base de ça pour faire ton entreprise.
Exact.
C'est wow. C'est tout à ton honneur d'avoir parti cette entreprise-là. Puis j'espère vraiment que les gens vont en connaître davantage sur le design inclusif. Puis avant de terminer, j'aimerais savoir pour les gens, justement, qui connaissent pas beaucoup le design inclusif, qu'est-ce qui te distingue? Ben, peut-être qu'on sait un peu, là. Qu'est-ce qui te distingue d'un design traditionnel?
Bien, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer... Tu sais, moi, je vois une différence entre l'accessibilité universelle puis le design inclusif. Pour moi, l'accessibilité universelle, c'est donner accès à... Puis là, je vais donner un exemple super simple. Un restaurant va mettre une rampe d'accès devant son bâtiment. Il va donner l'accès à son restaurant. Okay. Mais est-ce que ça assure la pleine participation rendue à l'intérieur? Non. Okay. Tandis que le design inclusif, nous, on va s'assurer qu'ensuite, tout l'environnement à l'intérieur est bien pensé. Donc, oui, je peux rentrer, oui, je peux circuler, mais ensuite, je suis capable de lire le menu. Je suis capable de commander aussi parce que les gens me comprennent puis que je suis capable de livrer mon message. Je suis capable aussi d'aller à la salle de bain parce que les salles de bain sont bien conçues. Mais je suis capable aussi de payer. Puis je suis capable aussi de vivre l'expérience avec ma famille, avec mes proches, comme les autres. Fait que c'est vraiment de garantir cette expérience-là pour favoriser vraiment une pleine participation là, à la société. Fait que, tu sais, on va vous accompagner si vous voulez rendre accès, mais si vous voulez faire aussi le pas de plus pour vraiment faire vivre l'expérience au complet, on va être là aussi.
Dans le fond, c'est de permettre vraiment à la personne qui est en situation, qui vit avec une situation de handicap, de pouvoir être le plus autonome possible, de pouvoir simplement se faire respecter sa dignité aussi dans son quotidien, puis de pas avoir à s'adapter à tous les milieux qu'il rencontre.
Exactement. Fond, mais ça devrait être la base, hein? Parce que ça, c'est un droit humain.
Oui, c'est vrai.
C'est un droit humain qui, présentement, est un peu mis comme... C'est comme si c'était comme pas obligatoire.
Ouais.
Mais ça devrait l'être obligatoire parce que, tu sais, c'est pas vrai qu'on peut décider qu'une personne a le droit ou non de participer dans
un
lieu. Tu sais, c'est pas à nous. Tu sais, moi aussi, j'aime bien l'exemple de au niveau de la sécurité incendie. Tu sais, présentement, on conçoit des bâtiments puis on garantit l'accès. Mais qu'est-ce qui arrive en situation d'urgence? Est-ce que les gens sont capables de sortir aussi?
Mon Dieu, c'est quelque chose que même moi, j'ai jamais vraiment pensé. Là.
Mais c'est tellement important parce que si on pense pas, par exemple, à mettre des zones de refuge, ou si on pense pas à faire une signalétique qui va être comprise, ou à mettre justement des avertisseurs de fumée qui sont autant lumineux qu'auditifs, ça veut dire que peut-être qu'on fait le choix que certaines personnes vont mourir en situation d'urgence. Puis je pense qu'on n'a pas ce droit-là de décider qu'il y a des gens
non,
en cas d'incendie
Wow.
méritent
comme de mourir. Je pense que c'est assez fort.
Oui, mais c'est vraiment fort, puis c'est important que tu le nommes, et qu'il y ait des prises de conscience. Puis justement, comme tu as dit tantôt, si tu peux semer des petites graines comme tu le fais en ce moment, puis je pense que ça prend que des personnes ouvertes à être plus inclusifs pour faire un pas, puis ne serait-ce que, comme tu dis, un système d'alarme de feu qui est pensé pour toutes les personnes. Je pense que ton exemple est fort, mais qu'elle est nécessaire.
Oui, parce que personne ne doit faire comme « Ah oui, moi, je décide volontairement que certaines personnes... »
En tout cas, je pense pas que ces personnes-là vont être quand même de m'écrire en commentaire. J'espère pas. Mais j'entends vraiment ta bonne prise de conscience là-dedans. Puis je pense que si on prend cet exemple-là puis qu'on la met dans toutes les sphères de notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait porter plus attention, je pense.
Oui, puis souvent, c'est pas volontairement que les gens font ça.
Non, c'est pas intentionnellement parlant.
C'est vraiment pas intentionnel que les gens font ça. C'est juste un manque de connaissances, un manque de sensibilisation qui fait qu'ils ne s'en sont même pas aperçus. Puis là, mettons, on leur dirait, puis ils feraient comme... Ah ben oui, ça fait du sens.
Ça fait du sens, c'est ça.
Se re-questionner, faire comme, OK, ben on pourrait peut-être le penser autrement puis que ça fonctionne pour le plus grand nombre de personnes possible.
Mais je trouve ça beau que tu aies cet œil-là. Tu sais, même si tu ne vis pas nécessairement avec un handicap ou une limitation quelconque qui est visible, en tout cas en ce moment, là, parce que ça pourrait arriver que tu aies autre chose qu'on ne voit pas à l'œil. Là.
Puis ça, j'aime ça vraiment le dire. Puis je suis contente que tu l'abordes parce que, tu sais, souvent les gens vont faire comme, mais... Tu sais, toi, t'as pas d'incapacité, puis c'est faux. Parce que moi, dans le fond, depuis comme 5 ans, j'ai plus de sensibilité dans mon bras gauche. Fait que, tu sais, il bouge.
Tu me mettrais... Mais d'où le podcast rendu caché, parce que...
Oui, c'est ça! Tu me mettrais un verre dans ma main gauche, puis comme j'ai plus de sensibilité, puis c'est que ma main, dans le fond, va lâcher le verre, mais sans avertir mon cerveau. Fait que là, ce qui arrive, c'est que je vais échapper le verre, puis je vais faire comme... Ça aurait été pas que tu me le dises. Ça te tentait plus de tenir. Mais fait que tout mon bras gauche, dans le fond, il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus de motricité fine. Je ne peux plus comme prendre des petits objets là, avec ma main. Mais ça, c'est quelque chose qui ne paraît pas. Oui, puis j'aime ça le nommer maintenant. T'sais, avant, je ne le nommais pas. Puis là, je suis comme, ben non, ça en fait partie.
Ça fait partie de toi.
Oui, ça fait partie de
ton quotidien.
Oui, vraiment.
Parce que tu t'adaptes.
Oui, je suis tout le temps en train de comme, m'ajuster, m'adapter parce que je ne vais pas prendre rien avec cette main-là. Ou quand je vais la prendre, c'est clair que l'objet va tomber, là.
Si t'es à l'aise d'en parler, y a-tu quelque chose qui a causé ça dernièrement?
Ben dans le fond, c'est que j'ai été dans le surentraînement.
OK.
Puis en étant dans le surentraînement, j'ai comme épuisé mes nerfs.
Oh mon Dieu.
Puis ça a le fait que là, j'ai plus de sensibilité.
Ça a été une conséquence, dans le fond, de ça. J'avais jamais entendu ça.
Même là, mon cas, là, était comme vraiment en neurologie, toute l'équipe, puis les mêmes... Les neurologues ne comprenaient pas là, qu'est-ce que j'avais. Là. Même encore, j'ai pas de diagnostic comme clair sur comment ça que j'ai comme plus de sensibilité. Tu sais, mettons, c'est comme super lointain. Là. Même quand moi, j'y touche, là, comme, je le sens, là, mais je le sens comme si c'était comme à l'autre bout du monde.
Spécial. C'est spécial, mais encore une fois, ça amène une prise de conscience de on sait jamais ce que les gens vivent.
On n'a aucune idée.
Juste en regardant une personne.
Exact.
C'est de faire attention à nos pensées qui peuvent arriver. Des fois, on a des jugements préconçus sur une personne, sur pourquoi elle ne fait pas la même chose que nous, peu importe. Ouais. C'est de toujours se remettre en question de on ne sait jamais ce
on
que l'autre vit.
On ne sait pas. Oui, puis tout ce qui est invisible, ça ne paraît pas. Tiens, on n'est pas dans l'obligation de le nommer.
Non.
Fait que si je n'ai pas envie de te le nommer, tu ne le sauras pas jamais. C'est ça que tu vas faire. Et on commence à l'échappe tout le temps. J'ai tombé maladroite, là.
Ben, c'est ça, dans l'employabilité aussi, je trouve. C'est des sujets, comme je dis, qu'on pourrait continuer encore, mais c'est touché parce que, tu sais, des fois, même moi, on me dit, t'aurais pu le nommer, tu sais, que t'as telle condition de santé ou ça nous aurait permis de comprendre ton énergie là-dedans ou peu importe, tu sais, en même temps, je me dis, ça se peut que j'ai une responsabilité là-dedans, des fois, de devoir nommer les choses, de devoir nommer comment je me sens dans mon corps. Mais des fois, je vais me détacher de ça aussi, puis je vais être considérée un peu comme, j'aime pas ça, mais comme les autres. En même temps, je veux être considérée comme ce que je suis capable de livrer comme performance, comme avec les conditions que j'ai, tu sais. Fait que je trouve que c'est encore du noir et blanc, des fois.
Oui,
là,
c'est moi, je travaille avec plein d'employeurs puis ils font comme, comment que je fais pour que les gens, tu sais, s'auto-déclarent, qu'ils nomment leur diagnostic? Je suis là comme, est-ce que tu as vraiment besoin du diagnostic? T'en as pas besoin parce que, tu sais, que je te dise que j'ai ce diagnostic X, Y ou Z, là, qu'est-ce que ça va dire? Ça va absolument rien dire. Ce que tu as besoin de savoir,
c'est quoi mes besoins? C'est ça que tu as besoin de savoir. Puis c'est pas de le demander à juste des gens spécifiques qui ont l'air d'avoir une incapacité. Ben non, demande-le à l'ensemble de tes employés, puis c'est de même que l'on va être dans l'inclusion, parce qu'on va venir s'ajuster, s'adapter aux besoins de l'autre. Fait que tu sais, admettons, je vais donner un autre exemple super simple. Moi, je suis zéro auditive dans la vie.
Okay. Moi non plus. Zéro, zéro.
Fait que même si tu me fais comme un texte magistral là, pendant une heure, puis qu'il t'a pas aucun visuel, rien, là,
j'apprendrai rien.
J'apprendrai rien, puis je m'en rappellerai même plus.
C'est okay?
Puis tu sais, c'est pas un handicap. Là.
Non.
C'est vraiment banal. Mais si je te dis, hey, moi, là, pour bien comprendre, là, j'ai vraiment besoin que tu me fasses un visuel ou que tu aies une présentation, parce que si tu fais juste me le dire, je vais l'oublier. Ben là, je viens de te nommer mon besoin. Fait que là, oups, tu vas faire comme, ah oui, c'est vrai, avec Christelle, elle a besoin d'un visuel, là, ça va être plus clair pour elle. Parce que si j'y parle pendant une heure, hey boy, ça va être parti.
T'as pas besoin de diagnostic pour ça.
J'ai pas besoin de diagnostic pour ça. Regarde, on a juste parlé de notre besoin, puis on s'est ajusté, on s'est adapté, puis c'est la même affaire, peu importe tes capacités. Nomme-moi ton besoin, puis après ça, on va s'ajuster.
Est-ce que
vraiment la base.
J'ai une question vraiment que je sais aucunement si on va pouvoir répondre, puis si t'as pas la réponse, c'est correct. Est-ce qu'un exemple, les personnes qui vivent avec un handicap, qui voudraient avoir un poste en plein à quelque part d'un emploi qui les passionne, qui veulent appliquer sur ce poste-là, mais qui savent, exemple, qu'ils peuvent pas travailler les 5 jours, qu'ils peuvent travailler 3 ou 4 jours, est-ce qu'il y a des organismes, des services qui peuvent payer le 5e jour ou...
Mais dans le fond, moi, ce que je te dirais, c'est ces gens-là, il faut qu'ils aillent voir les SSMOPH, les services externes de main-d'œuvre spécialisés en personnes pour handicapés. Tu sais, tantôt, je te parlais de Durosef, qui ont des membres. Bien, les membres, c'est les SSMOPH, les services externes de main-d'œuvre en personnes handicapées. Comme on a le CEMO Centre du Québec, on a aussi le CEMO Mauricie, l'autre bord. Mais eux autres, c'est leur spécialité de vous accompagner dans tout ce qui est accueil, intégration et maintien en emploi. Wow. Donc, ils vont être là. Puis si vous avez droit à des aides financières, bien, ils vont être là aussi pour vous accompagner dans ce processus-là, autant l'employé que l'employeur. C'est vers là que je te dirigerai.
Wow! Ben merci, en tout cas, de toutes tes belles informations. Puis pour terminer déjà notre entrevue ensemble, j'ai une question clé que je demande, en fait, à tous les invités qui passent ici à Handicaché Podcast. Si tu aurais un seul mot que tu associerais au terme, au mot de la différence, ça serait quoi? Un seul mot.
Ben, je te dirais que ça serait inclusion.
Inclusion,
Ça serait simple. Ça va de même. Oui, parce que dans le fond, on l'est tous différents.
Oui.
Puis cette différence-là, là, c'est notre super pouvoir.
Oui.
C'est ça qui nous différencie dans la société, puis c'est ça qui fait que la société évolue grâce à cette différence-là.
C'est vrai.
Fait faut pas la cacher. Au contraire, on la montre, cette différence-là, parce que seul l'est notre super pouvoir. Puis je le sais qu'en tant qu'enfant, préado, c'est dur de l'assumer, cette différence-là.
Ouais.
Mais je te le dis, plus tard, ça va l'être, ton super pouvoir.
C'est vrai. Même moi, je pense que ça m'a pris du temps avant de sortir un peu de ma coquille, puis d'en parler. Puis d'où la mission un petit peu d'avoir débuté Handicaché Podcast, c'est de prendre un peu tout mes connaissances, puis de vouloir rendre un monde un peu comme toi, plus inclusif, aborder des sujets, tu sais, qui ont des valeurs essentielles, mais des valeurs inclusives aussi. Fait que je te remercie tellement pour notre moment ensemble. Puis avant de quitter, on va terminer en fait notre entrevue ensemble, mais je vais te demander d'écrire ton mot sur un ruban de ton choix avec ton nom. Ah. Puis tu vas être marqué ici avec moi pour Handicaché Podcast.
Ah, c'est super beau, mais merci vraiment.
Merci à toi, puis merci à tous nos auditeurs.
Oui, merci.
Merci.
Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.